Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agneau et bienvenue pour un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, chers amis, accrochez vos ceintures parce que je vous emmène dans un flot ininterrompu de paroles et surtout des paroles hautement stratégiques et intéressantes avec Xavier Fontanet, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter où il est très actif. Alors, qui est Xavier Fontanet? C'est l'homme qui a fait Décilor, vous savez, cette marque de verre optique, une des plus grandes entreprises au monde, tout simplement dans son secteur d'activité, qui a fait passer Décilor d'une entreprise en redressement à une marque à dimension mondiale, un leader mondial. Comment est-ce qu'il a fait ça? Eh bien déjà parce que Xavier est un vrai personnage. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai l'habitude d'en recevoir des personnages sur ce podcast. Eh bien, vous allez voir qu'ici, vous allez être pris dans un flot de paroles, un flot d'idées qui partent un petit peu dans tous les sens parfois, mais surtout qui sont absolument passionnants. Qui est Xavier Fontanet? Il a commencé sa carrière dans le conseil en travaillant d'abord, vous savez, dans ce fameux cabinet de conseil, le BCG, le Boston Consulting Group, alors que c'était encore une toute petite entreprise, je crois qu'il disait qu'il y avait à peu près 40 salariés, loin du grand cabinet mondial qu'on connaît aujourd'hui. Peu à peu, il gravit les échelons et il finit ensuite par être débauché pour devenir DG Décilor. Là, je vous fais un petit peu un fast forward, il s'est passé quelques autres choses entre temps, mais c'est ce dont on a parlé dans l'épisode. Il a donc été DG Décilor de 1991 à 2013, soit quand même plus de 20 ans de carrière où Décilor a connu tout simplement une croissance sans précédent. Xavier a complètement restructuré le groupe et en a fait le leader mondial de l'optique. Comment est-ce qu'il a fait ça? Tout simplement en mettant en place une vraie et profonde stratégie. Je suis très heureuse de l'avoir eu à mon micro. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que moi. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Xavier Fontanet. Bonjour Xavier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien écoutez, c'est un honneur réellement pour moi. Je suis très contente d'avoir pu enfin faire ce rendez-vous avec vous. Xavier, vous savez, j'ai lu votre livre, j'ai énormément étudié votre parcours qui est impressionnant. Et en fait, bon, j'avais mis l'idée pour commencer, mais il y a une phrase de votre dernier livre, Conquérir le monde avec son équipe, que j'ai trouvé très intéressante et je vais vous la lire. J'aimerais bien que vous me disiez simplement ce que vous vouliez dire par là. Cette phrase, c'est « Parmi les dirigeants, il y a ceux qui sont dans le contrôle » et ceux qui dirigent par la confiance. Les uns sont des dirigeants managers et les autres des dirigeants leaders. Je pense que vous faites partie de la deuxième catégorie. Et j'aurais aimé savoir finalement qu'est-ce que cette phrase voulait dire pour vous et tout simplement en fait peut-être que vous élaboriez justement sur votre vision du leadership et du management.
Oui, alors j'ai énormément réfléchi aux mécanismes de confiance parce que je me suis rendu compte que les entreprises qui marchaient bien, en fait, elles avaient quelque chose en commun qui était cette espèce de mystère, mais qui est un miracle, parce que ça arrive, qui est la confiance. Et j'ai beaucoup réfléchi aux mécanismes de confiance que je peux peut-être vous décrire, si vous voulez, parce que ça répondra à la question. La confiance, en fait, c'est un système, il y a trois dimensions. Il y a d'abord, il faut que les gens aient confiance en eux. Hein? Et alors, si vous voulez, c'est un équilibre assez difficile entre l'arrogance qui est l'excès de confiance, et quand des gens sont arrogants, on peut pas les mettre dans des équipes. Et puis la flagellation, les gens qui passent leur temps à se flageller. Donc, et ça non plus, c'est pas très agréable parce qu'ils s'abîment eux-mêmes. Et donc, il faut d'abord arriver à s'assurer, à aider les collaborateurs à avoir confiance en eux. Voilà. Bon. Donc ça, c'est tout un premier travail du dirigeant. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est la confiance dans les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à travailler en équipe parce qu'ils ont besoin de tout contrôler pour être bons.
Ouais.
Alors que dans le monde actuel, c'est de plus en plus difficile. On travaille de plus en plus en réseau. Et donc, il faut développer les capacités à faire confiance aux autres. Hein. Et alors, je sais que moi-même, dans mon parcours, quand on m'a fait confiance, ça m'a fait grandir. Je me rappelle toujours, je parle ça du BCG, on en parlera, la fois où, première fois, on m'a dit, bah, tu prends une étude, t'es le chef de l'étude. Alors, essaye de pas te planter, parce que si tu te plantes, ça fait du mal à tout le monde. Ouais. Eh bien, le chef, quand il m'a dit ça, il m'a fait grandir. Mmh. Et je sais que, par la suite, dès que je disais à quelqu'un que je lui faisais confiance, on voyait tout de suite les gens qu'on faisait confiance. Donc, il y a tout un travail aussi d'apprendre à faire confiance aux autres. Mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est le côté très difficile, c'est que quand vous avez des gens intelligents, il suffit pas d'avoir confiance en soi et dans l'autre. Il faut aussi que la stratégie soit bonne. Parce que si la stratégie est pas bonne, les gens le savent tout de suite. Et vous n'arrivez pas à créer la confiance. Alors, autant dans certains pays, par exemple, je veux pas jeter des pierres, mais ce que j'admire énormément le Japon ou l'Allemagne, qui sont des gens très disciplinés, on peut les envoyer dans le mur. Les Américains aussi, hein, on peut les envoyer. Mais un Français, c'est impossible.
Ouais.
Le Français, la stratégie est pas bonne, il va montrer qu'il est plus intelligent que le chef, il va désobéir.
Il a un esprit critique.
Et donc, ça force les managers français à travailler aussi la stratégie. Et alors, si vous voyez, ce qui est formidable, c'est que quand vous construisez une stratégie avec les gens, les meilleurs, vous voyez. Et donc, ce mécanisme de confiance sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est un système à trois. Hein. Et alors, évidemment, on n'aurait pas pu monter si l'or tel que ça a été sans ce système de confiance, parce que quand il y a un phénomène qui se passe aussi, c'est quand l'entreprise grandit. Quand l'entreprise grandit, à un moment donné, elle échappe un petit peu au mode de management. Parce que nous, on avait, je sais plus combien, il y avait 500 sociétés. Hein. Donc, ça commence à devenir compliqué. Alors, on fait des petits paquets de trois sociétés. Donc, on fait. Moi, je crois que je devais faire 150 budgets. Vous voyez, bon. Donc, c'était quand même assez compliqué. Et puis, il fallait rentrer dans le détail pour chacun. Bon. Il y a un moment donné où on est obligé de faire confiance. Vous voyez, on est obligé de déléguer. Et donc, il y a toute une période pour laquelle, au début, quand l'entreprise était relativement de taille. Manageable, entre guillemets, évidemment, on était les mains dans le cambouis. Et puis après, je suis passé à un système qui était pédagogique. C'est-à-dire que le système, c'est de choisir les gens bien, hein, et puis bien suivre, hein, à la fois les succès et les échecs, et puis s'assurer que le niveau intellectuel était suffisant, et moi, j'étais devenu prof. Et dans les 10 dernières années, je veux dire, j'étais devenu prof. Je faisais des cours de stratégie à tout le monde, et à ce moment-là, les gens comprenaient tout. Et donc, à ce moment-là, le management est beaucoup plus simple. Alors, il faut que la stratégie soit bonne. Hein.
Ouais.
Si la stratégie est mauvaise, vous vous plantez complètement. Mais l'exigence des collaborateurs fait aussi que vous affinez le contenu de la stratégie, puis vous affinez l'expression. Parce que l'art de trouver les bonnes expressions, c'est capital. Quand on dirige un très grand nombre de personnes, on se rend compte que trouver les bons mots, mais souvent, c'est les gens qui les trouvent, hein, les expressions. Et donc, à ce moment-là, le truc est passionnant parce que vous êtes à la fois pédagogue. Donc, vous apprenez à expliquer, mais en même temps, les gens vous répondent et il y a une espèce de, une création partagée. Et ça, ça a été vraiment je pense que c'est le mécanisme le plus profond qui explique pourquoi on a réussi à devenir leader mondial. C'est là que ça s'est passé. Parce qu'on avait des concurrents qui étaient extrêmement redoutables. Il y avait des Allemands et des Japonais, mais qui ont des conceptions plus militaires, vous voyez. Donc, ils avaient des chefs. Le chef japonais est un véritable génie, Sato-san, j'en parle beaucoup, c'est un véritable génie ce type-là. Mais il avait un management qui était plus autoritaire. Et quand on s'est rencontrés donc après le travail, il a reconnu que le management décentralisé à l'Essilor avait quand même une puissance d'exécution exceptionnelle. Voilà. Voilà un petit peu la réponse un peu circonstanciée.
J'ai 1000 questions pour vous parce que je trouve ça passionnant. Vous me parlez déjà d'essayer de construire ou d'aider à construire la confiance en eux de vos coéquipiers.
Bien
parce
sûr.
Que si jamais ils n'en ont pas, malheureusement,
bah oui.
Ça fonctionne pas. Comment vous faites?
Alors, oui, effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, si vous voulez, moi, je pars du principe que chaque personne est géniale. D'accord? On a tous des visages différents parce qu'on n'est pas pareil. Et donc, je saurai à peu près à la fin de l'interview dans où sont vos talents. Alors, le premier point, c'est qu'il faut trouver le talent exceptionnel. Et je pense que chacun, je le pense sincèrement, a en soi, sur un sujet, un domaine où il est leader mondial. D'accord? Pas le seul, mais il boxe dans la catégorie mondiale. Alors, dans les talents, vous avez des gens qui sont très ouverts, donc c'est des commerçants, c'est des communicants, donc c'est des gens qui s'expriment très bien, qui sont très sensibles aux autres, et ça donc, c'est tous les talents du commerce et du marketing, et puis de la com. Bon, après vous avez des gens qui sont plus fermés sur eux, mais qui sont extrêmement précis, qui ont besoin d'ailleurs d'un certain isolement pour aller dans l'excellence de leur métier. Ça, c'est plutôt des gens qui vont aller dans des métiers techniques, des métiers de recherche. Bon, après, vous avez évidemment les, il y a deux grands esprits, il y a les esprits extrêmement créatifs. Donc, c'est des gens qui partent dans tous les sens. Et ça, faut cultiver. Parce que c'est vraiment souvent la création qui crée les choses. Et puis, des gens très organisés. Je vois chez mes petits-enfants, c'est absolument incroyable que mon épouse et moi, on ait pu faire des enfants et des petits-enfants si différents. Il y a vraiment des enfants créatifs. Mais je vous assure, ils nous amusent tout le temps. Et puis d'autres qui sont systématiques. Et notamment, j'ai deux petites filles aînées. Il y en a une vraiment, c'est, elle est championne du tableau carré. Et donc, elle vous classe tout le temps tous les trucs. Et c'est extrêmement utile.
Future consultante.
Oui, mais alors, elle classe tout. Et puis, tant que le truc est pas complet, ça marche pas. Elle est très tenace. Et ça, c'est vraiment une organisatrice exceptionnelle. Et puis, alors, une autre qui échappe systématiquement aux cases. Et c'est les enfants de ma fille aînée. Comment est-ce que il y a une telle variété? Alors, si vous voulez, vous partez de ça. Donc, et à ce moment-là, il faut mettre les gens progressivement dans les métiers où ils excellent, d'accord? Et puis, à ce moment-là, dès que vous créez une équipe avec des gens excellents, ils se reconnaissent tout de suite. Vous savez, on dit toujours que les grands fauves se reniflent. Quand vous avez une équipe où on peut faire travailler très très bien un créatif et quelqu'un qui est très très pointu, dès qu'ils savent qu'ils sont des champions, vous comprenez? Dès qu'ils savent qu'ils sont bons, tout de suite, ils travaillent.
Ouais,
et donc ça, c'est le truc qui est très difficile, c'est de construire les équipes. Donc, il faut arriver à avoir les talents.
Avec des personnes du même niveau, sinon ils se démotivent.
Ils sont au même niveau, mais ils sont totalement différents. Par contre, ils sont tous champions. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que si leur étant champion du monde dans son métier, il faut que chaque collaborateur soit dans son métier top mondial. Mon assistante Marie-Laurence, dont je parle beaucoup, c'est une assistante exceptionnelle. Et elle a complètement changé son boulot au fur et à mesure que l'entreprise a grandi. Et elle s'est complètement adaptée à chaque moment à ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, je me rappelle à la fin, j'ai repéré que c'était une fille qui avait un sens de la synthèse exceptionnelle. Et je lui demandais de faire la synthèse des comités exécutifs. Alors, je peux vous dire que c'était des fiches extrêmement simples et tous les mots étaient choisis.
Donc finalement, ce que vous dites sur la confiance, c'est que repérer le talent
de chaque personne
mondial, top mondial de chaque personne, et le mettre à la bonne place.
La mettre à la place, donc ça veut dire qu'il faut bien connaître toutes les équipes, vous voyez, et c'est comme
parce
ça
qu'ils n'en ont peut-être pas conscience eux-mêmes en plus.
Non. Mais attendez, quand vous commencez à dire, alors je sais que maintenant ce sont des valeurs qui sont moins à la mode aujourd'hui, hein, puisque nous, moi je suis comme d'une génération dans laquelle... Le mot d'ordre à notre époque, c'est champion du monde. On va aller aux États-Unis parce qu'on s'est bien rendu compte que les États-Unis avaient quelque chose de plus que l'Europe à l'époque. Donc je parle des années 75. Et puis on a eu moi j'ai connu que des toutes petites boîtes qui sont devenues les hormones. Moi j'ai connu, si vous voulez, BCG, j'étais 40e rentrée, ils sont 20 000. J'ai connu Beneteau à, je sais plus combien, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils font 2 milliards. J'ai connu Essilor je sais pas, 1500 personnes. Quand je suis parti, c'était presque 100 000. Oui, vous voyez le truc? Bon. Et donc, on a connu cette mondialisation. Aujourd'hui, les jeunes se posent d'autres questions. Hein, donc moi, on parlera beaucoup d'économie durable parce que j'ai beaucoup réfléchi, forcément. Mais, moi, c'est le driver dans la période, on va dire 75-2015, ça a été la quête de leadership. Et ça parlait aux gens. Parce que vous dites, on construit, je prenais l'analogie de construire une cathédrale. Mais une cathédrale, ça vit éternellement. Bon, tous les gens qui ont construit la cathédrale de Chartres, ils avaient conscience de construire un truc qui dure. Et moi, je voulais qu'Essilor soit la même chose.
Mais je suis pas sûr que ça ait changé, ça.
Ah. Bah maintenant, il y a tout le sujet, on en parlera, de l'économie durable et tout ça. C'est devenu quand même au-dessus du leadership mondial, je pense, aujourd'hui.
Non, oui, peut-être pas discuter. La côté mondialisation, mais le fait de construire des choses qui durent.
Ah oui, alors construire le durable, absolument. Construire des choses durables. Alors, en termes d'entreprise, si vous voulez, la solidité, c'est le leadership mondial. Hein. Alors, il y a des métiers locaux, des métiers mondiaux. Hein. Donc, si vous êtes notaire, par exemple, le métier est local. Donc, si vous voulez construire une boîte de notaire costaud, bah, faut exceller dans sa ville. Et là, vous faites du durable. Et là, ça se mondialise pas à cause des contacts. Mais dans tout ce qui est industrie et même services, tôt ou tard, la vocation, c'est la... Voilà, le gratin a une vocation de leadership mondial. On va y contribuer.
Grâce à vous, ça se fonctionnera, Xavier. Une autre question sur ce sujet, vous avez parlé de suivi, c'est-à-dire que vous donnez la confiance, mais la difficulté, je trouve, moi-même, je suis entrepreneur, c'est le suivi.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'on veut donner la confiance, mais finalement, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Absolument.
Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on dose?
Ah oui, alors moi, j'ai fait des erreurs. Dans les erreurs que j'ai faites, il y avait évidemment des erreurs sur les personnes. Hein. Alors, il faut du suivi. C'est-à-dire que d'abord, quand on vous donne des responsabilités, il faut se mettre d'accord avec la personne que la transparence, c'est l'échange. Hein, quand vous avez un patron d'Australie qui est à 20 000 km de chez vous, on lui donne les clés de la maison, mais au moment où on passe les clés, on dit transparence. Ouais. Vous voyez ? Bon. Alors après, c'est très compliqué parce que après, il faut avoir la capacité de suivre. C'est-à-dire qu'on peut pas suivre 80 personnes.
Et pas tout.
On peut en suivre 12.
Déjà, c'est beaucoup.
Vous voyez? Donc, il faut construire des systèmes d'organisation où vous faites 12 par 12 par 12. Alors, quand on fait déjà 12, c'est beaucoup. Les gros débats, on a des débats entre nous, les patrons de grosses boîtes. Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 12? Bon, ça dépend un peu des gens et un peu des métiers. Moi, je pense que 10, entre 8 et 12, c'est le bon niveau. Alors, donc, ce qui vous permet vraiment quand même de suivre les gens. Hein, donc, vous avez tout l'art de construire l'organisation, et ça dépend des gens qui sont capables de prendre les échelons. Alors, j'appelle pas ça échelon intermédiaire. Mais, donc, nous, on avait trouvé un bon système d'échelons qui me permettait d'être très près des gens et qui me permettait quand même d'en avoir suffisamment. Vous voyez, donc, parce que si vous faites un système où vous suivez 3 ou 4, à ce moment-là, c'est l'armée mexicaine. Donc, vous créez des frais généraux et à ce moment-là, vous plombez les prix de revient. Si vous faites un système où il y a trop de, à ce moment-là, vous n'êtes pas présent. Donc c'est ça qui est très compliqué à trouver,
ouais.
Vous voyez. Et ben c'est à ce moment-là, c'est le gros travail. C'est le gros travail d'être capable de suivre, de la transparence.
Alors de former aussi, former les personnes aussi.
Alors évidemment, on avait beaucoup de formations chez Sylor, c'est-à-dire que il y avait des gens absolument géniaux qui étaient montés après les études très légères, donc ils allaient au MIT. Hein. Brignon, dont je parle beaucoup. Donc, qui était le patron des productions mondiales. Il s'est retrouvé avec 50 000 personnes sous lui. Hein. Et donc, il avait le bac, mais c'est quelqu'un qui a été rentré à 16 ans. Comme ouvrier, si vous voulez. Et donc, moi, j'ai envoyé au MIT. Hein. Donc, il a fait des cours du MIT. Les cours d'été, il y a des cours d'été de formation permanente exceptionnels. Il faut former. Alors, moi, j'avais aussi beaucoup, c'était la lecture. Je pense que la lecture, c'est absolument capital. Donc, j'avais un système qui était assez marrant, c'est que j'achetais les bouquins. Donc, dès qu'il y a un bouquin qui me plaît, j'en achetais une centaine.
Et vous les distribuez?
Alors, ils étaient à mon bureau. Donc, en fait, j'avais toujours en permanence, entre 5 et 10 piles, c'était sérieux, hein, de bouquins que je pensais utiles. Et donc, tous les gens, les expats, parce que moi, on avait besoin du contact avec les expats, les fameux moines soldats, dont on parlera plus tard, ils savaient, et même si je ne les voyais pas dans des réunions, parce que ben les réunions, c'est quand même limité, si vous voulez, ils venaient quand même me voir en disant « Xavier, je suis là, ah bonjour, prenez un café », et je dis « Tiens, lisez-moi ça ». Et ils repartaient avec 5 ou 6 livres. Comme ça, c'était pour moi un moyen de tous les voir. Vous voyez? Et ils pouvaient taper dans le bureau, ils rentraient, je les voyais 2 minutes, ils partaient avec leur bouquin. Donc, si vous voyez, il y a la formation, je pense que la lecture est très importante. Alors, la lecture, c'est pas n'importe quel livre. Il faut aller chercher les livres géniaux. Donc, je constituerais sûrement une bibliothèque idéale du management. Je pense qu'il y a une centaine de livres qu'il faut absolument avoir lus. Et je pense que ces très grands livres... vous savez, ça vaut des écoles.
Hein. C'est clair.
Ah ben, si vous lisez, par exemple,
j'allais vous demander
le
justement.
Miracle en économie de perfite. Vous voyez, s'il n'y avait qu'un livre à lire, on peut discuter des livres. Il se trouve par un hasard incroyable que j'ai eu la chance d'approcher Alain Perfite à la fin de sa vie, et l'histoire elle vaut le coup d'être racontée parce que ça évoque l'histoire du hasard et de la chance, qui est un élément clé. Du succès. Et peu de gens vont vous dire, ça a marché par la chance. Moi, je vais vous dire, la chance a contribué dans le succès des Sylor de façon phénoménale. Alors, je vous raconte une petite histoire de chance. Un jour, j'étais en avion et je vois une femme. Donc, il se trouvait que Spinella, le patron d'Air France, m'avait toujours surclassé pour une histoire incroyable que je pourrais vous raconter si ça vous amuse. Bon. Et donc j'étais toujours, on achetait des billets de business ou même de, et dès que j'étais là, je me retrouvais en première. Et un jour, je vois une femme vraiment très fatiguée arriver, etc. Et je dis à l'hôtesse, écoutez, je donne ma place. Ah non, Monsieur Fontanet, non, non, je donne ma place. Oui, mais Monsieur Fontanet, elle est en arrière. Je donne ma place. Bon. Je donne ma place. Et puis à la sortie, je vois des gens assez impressionnants et je tombe sur Alain Perfit. Et en fait, c'était Madame Perfit à qui j'avais donné ma place. Et Monsieur Perfit voulait absolument voir le monsieur qui avait donné sa place. Bon, il se trouve que mon père avait été ministre du général de Gaulle avec Perfit, donc ça a fait des liens. Et c'est l'époque où Perfit réfléchissait au problème de, au sujet de confiance. Vous voyez, donc j'ai formulé, il m'a beaucoup aidé. Et donc on a beaucoup, il m'invitait. C'est l'époque où il écrivait La Société de Confiance. Donc il faisait ses conférences à l'Académie des Sciences. Ou l'Académie des sciences morales et politiques, et, ou au Collège de France. Donc, il faisait conférence au Collège de France, il a fait un bouquin, et après, il a fait un truc qui s'appelle Du miracle en économie, qui est un bijou. Alors, ça, c'est le bouquin à lire. C'est un des plus beaux bouquins. C'est le bouquin qui explique qu'il y a le capital et le travail. Il est au-dessus de Marx. Vous savez, Marx explique qu'il y a le capital et le travail. Bon. Non, non. Il y a un troisième facteur qui est la confiance. Et si vous n'avez pas la confiance, capital et travail, ça marche pas. Et la confiance est la clé. Et donc, il a étudié l'économie, c'était un littéraire, mais je crois que ce qu'il a écrit, c'est parmi les livres les plus intelligents en économie. Il a réfléchi à la confiance. Et donc, ce livre est à lire. Il faut lire Braudel aussi. Vous voyez Braudel ?
Fernand Braudel.
Ah oui, il faut absolument lire la grande trilogie.
Mais donc, en fait, finalement, c'est des livres, c'est plus que du management spécifique, c'est vraiment une vision, c'est au-dessus.
C'est au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez... Bon, il faut se payer aussi à Hayek. Alors Hayek, c'est très difficile parce que c'est un autrichien. Il est évidemment très contesté parce qu'il était l'adversaire de Keynes, mais je pense qu'alors il a entièrement raison. Bon. Alors Keynes, ça marche à court terme, mais pas à long terme. Donc les gouvernements ont récupéré Keynes parce que ça leur permet de justifier les dépenses publiques, mais ça vous plombe les pays. Il faut faire Keynes peu de temps, mais il faut l'arrêter. Hayek est évidemment la pensée qui vous structure un pays sur le long terme. Et Hayek est absolument, il faut absolument lire Droit, législation et liberté. Donc c'est, oui, c'est très lourd, c'est 3 fois 800 pages. Mais, si vous faites l'effort de lire, je vous assure que ça vous transforme. Donc déjà, vous voyez, Perfit, Braudel, Hayek, c'est des trucs vraiment importants. Moi, je dis qu'il faut lire la vie de Steve Jobs.
Alors, il y a eu il y a énormément de...
Le livre qui a été fait par le journaliste.
Hein. Williamson, je crois que c'est ça son nom.
Donc, Jobs a dit à 35 personnes qui ont compté dans ma vie, je vous donne les noms et je vous demande de les interviewer et vous faites le bouquin qui vous plaît. Il faut lire celui-là, pas les autres. Alors là, vous avez, parce que vous avez, si vous voulez, vraiment, là, vous avez un génie. Moi, je ne me hausse pas au-dessus de ma condition. Moi, je suis quelqu'un qui suis capable de vous mondialiser une entreprise qui existe. Je n'ai jamais de ma vie créé, voyez. Et Jobs a ce talent unique de créer, voyez. Moi, je sais faire grossir. Bon, mais créer, ça m'a pas été donné. Mais je suis pas sûr que j'avais les éléments pour faire, voyez. Alors, les éléments pour faire grossir, c'est pas forcément ceux qui font créer. Mais il y a tellement de créations d'entreprises que Jobs est un vrai génie. Par contre, vous avez le complément de Jobs qui est Jack Welch. Welch, c'est comment différent? Welch, c'est quelqu'un qui a fait grossir les entreprises. Et si vous voulez, il faut lire la vie de Welch, et il faut lire la vie de Jobs. Et quand vous avez les deux, voilà, vous voyez, donc vous mettez en plus un coup de Braudel, un coup d'Hayek, et puis un petit coup de Perfit. Là, vous avez des livres. Alors après, vous avez d'autres livres qui sont, j'aime pas l'analogie des guerres parce que c'est épouvantable, etc. Et qu'il faut évidemment lutter toutes ses forces contre ça. Mais il y a quand même, dans le savoir-faire, des militaires, des savoir-faire extrêmement précieux. Parce que quand vous êtes en bataille militaire, vous luttez contre quelqu'un d'intelligent. Vous comprenez? Et il y a des bouquins absolument phénoménaux à lire, notamment le bouquin sur MacArthur. Puisque c'est toute la lutte entre MacArthur et les Japonais dans la dernière partie de la guerre mondiale. C'est un bijou. C'est le bouquin de Kersaudy, celui-là. C'est un véritable bijou. Il y a un autre bouquin qui est très très intéressant à lire, c'est le bouquin de Geoffrin sur Napoléon. Bon, alors Geoffrin, c'est le patron du nouvel, de je sais plus quoi là, c'est pas le Nouvel Obs, mais c'est il m'énerve tellement que le nom de son bouquin, de son journal, mais
le Nouvel Économiste, non?
Non, c'est pas non. Ça va. Le nom m'a Geoffrin. Et alors, il a une qualité quand même, c'est qu'il est Napoléon. Et il a fait un livre sur les campagnes de Napoléon, c'est les campagnes d'Italie. Donc, je pense que Napoléon, si vous voulez, il a été le génie de Napoléon. Il a été très très fort jusqu'à Austerlitz. Hein. Et dans les batailles de la conquête de l'Italie, là, vraiment, on voit que le gars était génial. Et donc, Geoffrin a fait une description des batailles de Napoléon en faisant les cartes. Donc, il vous donne la carte et vous voyez l'échiquier. Et puis après, il vous fait bouger la carte toutes les heures. Donc, vous voyez tous les mouvements. Et alors, évidemment, c'est épouvantable, mais vous voyez ce que c'est que la stratégie, c'est-à-dire que vous voyez, quand il bouge, vous voyez tout le talent de la surprise. Vous voyez, la surprise, c'est le cœur de la stratégie, être capable, le contre-pied. C'est la clé. Et donc, ça, c'est des bouquins qui, pour moi, ça vaut tous les bouquins de management. Il y a plein de bons bouquins, mais les bouquins américains, tout ça... Non, moi, j'ai toujours fait lire des livres de stratégie pure.
Justement, si on parle de stratégie, finalement, c'est une décision aussi, une stratégie. C'est-à-dire qu'on décide dans quel sens on veut aller et ensuite on l'exprime.
Il y a l'art de la décision.
C'est ça.
Bien sûr.
Et je voulais vous demander... Est-ce que vous pourriez me prendre par la main d'une certaine manière, intellectuellement parlant, et m'expliquer comment étaient élaborées ou comment vous élaboriez des stratégies? Parce qu'entre finalement un chemin A et un chemin B, un monde peut être entre les deux. Enfin, je veux dire, c'est complètement
différent.
Oui, alors,
si vous voulez, de façon concrète, ça se passe pas comme ça. De façon concrète, vous rentrez dans une entreprise. Donc, au début, c'est ce que j'explique dans le livre, finalement. Vous voyez, on a fait... Alors, moi, si vous voulez, ce qui est très amusant avec Essilor, c'est que j'ai connu Essilor comme consultant. Donc, j'ai passé 8 ans avec Essilor dans les années 73-81. Et à l'époque, c'était l'époque de la fusion. Et donc, j'ai vécu cette période. Puis après, je suis parti chez Beneteau, puis chez Eurest. Et je suis revenu à la suite d'une histoire incroyable. Une rencontre totalement imprévue dans l'avion, quand même. Faut voir que la vie, elle est faite de ça. Et donc, à ce moment-là, Essilor, effectivement, avait des soucis. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est pour ça qu'il cherchait quelqu'un de l'extérieur, comme DG. Et là, vous arrivez dans une situation. Et donc, à l'époque, si vous voulez, il n'était pas question de mondialiser. On regarde ce qui se passe. Faut être concret. Et ce qui se passait, c'est qu'Essilor avait réussi effectivement à devenir leader dans le domaine des verres. Mais c'était un leader. Essilor avait déplacé les 4 concurrents historiques. Il y avait donc, Zeiss et Rodenstock, 2 Allemands. Et il y avait 2 Américains, American Optical, Bausch & Lomb. Donc, Essilor avait réussi à les battre. Et il avait réussi à les dépasser. Donc, il est devenu leader. Mais il est en train de se faire rattraper par des concurrents nouveaux venus, Oyal japonais, Solal australien. Donc, les vrais concurrents, je commence à dire, non, vous êtes très fiers d'avoir battu les 4, d'accord, mais attendez, le danger vient de derrière. Et le danger était épouvantable, puisque les suiveurs étaient 10% plus petits qu'Essilor, mais ils croissaient à 20 et 30%. Alors, ce qui se passait, c'est qu'Essilor, à l'époque, en vert, croissait moins vite parce que tout l'argent des verres partait pour financer d'autres lignes de produits, les montures, les verres de contact, etc. Alors j'ai dit, attendez, si on continue, on va dans le décor. Dans 3 ans, ils nous passent devant et dans 5 ans, je vous dis, ils nous foutent en faillite. Donc, il a fallu donc expliquer qu'il fallait changer les stratégies. Ensuite, Essilor s'était endetté. Donc, il n'y avait plus de possibilité d'endettement. Même notre dette était très élevée. J'ai dit, attendez, on risque une faillite de liquidité. Hein? Alors c'était très difficile à percevoir, mais si vous voulez, ça arrive normalement quand une entreprise a cru pendant très très longtemps à toute vitesse, on a chargé la barque, elle était endettée. Donc il a fallu dire, on va se reconcentrer, avant de parler de quoi que ce soit, on se reconcentre, on enlève les branches mortes, et donc là j'ai mes 5 premières années, ça n'a pas été de la conquête, ça a été...
Parce que, de la restructuration, en fait.
Ah oui. Et donc, la stratégie, si vous voulez, c'est une stratégie, c'est un truc qui change tout le temps. Et la période, quand je suis rentré, c'était une période de restructuration. Et donc, on a bouffé de la restructuration. Donc, ça s'est très bien passé, finalement, les gens ont compris. Mais on a quand même vendu les contacts, on a vendu les implants, on a vendu, et on a mis que les verres. Alors après, total changement de stratégie, les verres, rien que les verres, tous les verres du monde. Donc, la nouvelle stratégie, on ne fait que les verres de lunettes, mais dans le monde entier. Alors là, c'est un axe que tout le monde comprend, vous voyez. Et on est parti, donc la stratégie a changé. Et comme on s'était débarrassé des poids morts, alors il y avait des poids morts et des dilemmes en termes techniques, vous voyez, parce que il y avait les montures qui étaient dominées par les Italiens sans croissance. Il y avait des produits différents qui étaient des produits verres de contact et implants intraoculaires qui avaient des très fortes croissances. Vous voyez? Donc c'est pas la même nature de stratégie. Et par contre, là, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait des concurrents qui étaient 100 fois plus gros que nous, qui étaient les groupes pharmaceutiques. Donc là, on pouvait s'amuser. Et comme on avait des gens très durs dans les verres, on pouvait pas se charger. Et donc, à ce moment-là, dès qu'on s'est remis uniquement sur les verres, là, le terrain change. Alors là, le terrain est très simple. On oublie les vieux. Rodenstock, Zach, ça c'est fini, ils sont dans le décor. Et on a le problème des Horaces et des Curiaces. Il y a Essilor, Oya, Sola. Hein? Alors la stratégie après, c'est on peut pas se les prendre tous les deux. Lequel on se prend d'abord? D'accord? Donc là, ça a été très amusant. Là, le jeu, si vous voulez, je m'amuse parce que là, le jeu est extraordinaire. C'est que quand vous avez compris ce que c'est que la stratégie, tout devient drôle. Alors, faut que je vous apprenne. Alors,
je veux bien que vous m'appreniez.
Je vais vous apprendre. Alors, attendez, alors, je vais.
Déjà, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit assez simple.
Ah, toujours.
Finalement.
Ah, ben, c'était simplifié pris pour nous. Hein? Bon, il y a un petit côté chrétien dans Essilor. Bon. En fait, c'est simplifié pris pour nous. Hein? C'était d'ailleurs mon prédécesseur Cotet qui avait lancé le mot. Et, ah oui, simplifié. Vous vous rendez compte? Tout le monde rigole. Alors, il y a quelqu'un qui arrive avec un truc compliqué. On dit simplifié pris pour nous. Et c'est plus la peine d'expliquer. Tout le monde part d'un éclat de rire, y compris la personne. Et je dis non, apprenez à simplifier. Alors, et tout est simple. Alors après, il fallait en choisir un des deux. Donc, il faut évidemment taper sur... c'est dur, mais c'est la survie. Il faut taper sur celui qui nous semblait le plus faible. Donc, il y avait Oya. Donc, Oya était indémoulonnable. Parce qu'Oya, c'était une société japonaise qui était toujours un des champions. Ils font toujours les 7 samouraïs. Hein. C'est les 7 plus belles boîtes japonaises. Et Oya était pendant 25 ans toujours dans les 7. Donc elle n'est pas connue parce que c'est une boîte qui fait des composants d'ordinateurs. Ils font notamment les disques durs, vous voyez. Ils ont une part de marché indécente en disques durs. Ils font tous les masques qui permettent de faire des microprocesseurs. Hein. Et donc c'est vraiment une boîte absolument exceptionnelle. Alors ceux-là, on se dit, on se les prend pas. Et donc ceux-là étaient plus fragiles parce que ils étaient très endettés. Ils avaient cru à toute vitesse. Et c'est là qu'on a conçu la stratégie. On a dit, écoutez, on va faire croire à Oya qu'on attaque l'Asie. Comme ça, Oya va nous attendre. Et en fait, on va aux US. Ce qui fait que ça a déjà nettoyé le terrain. Hein? Et c'est très marrant parce que Sato disait effectivement qu'il avait été pris par le leurre. Il avait dit, et si leurre va tout de suite m'attaquer. Et donc, il a nettoyé l'Asie, la Corée, le Japon. On en parlera après, mais il nous a laissé libre aux US. Et là, on s'est pris cela bien en tête.
Et là, il était seul.
Il est seul. Mais alors, la stratégie qu'on a faite, c'est qu'on a acheté ses clients.
Alors ça, j'aimerais bien qu'on en parle justement, parce que vous en parlez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez conquis ce marché américain?
Oui, il faut évidemment, pour expliquer ça, il faut rentrer un tout petit peu dans le métier. Hein, parce que, alors si on dit, c'est compliqué. Alors, si vous êtes dans le verre ophtalmique, il y a deux familles de produits, pour simplifier. Si vous êtes myope, par exemple, et que vos yeux sont vraiment des vraies sphères, vous allez prendre comme du prêt-à-porter. On va être capable de faire des gammes de verres, et on dira, c'est celui-là qu'il vous faut. Parce que vous rentrez dans un certain cadre. Si vous êtes hypermétrope, et que vous avez un verre vraiment un œil sphérique, donc vous n'êtes pas astigmate, on peut aussi taper dans des gammes. Donc, on a toute une partie des Essilor qui est faite en prêt-à-porter. D'accord? C'est les gros volumes. Hein, on va dire que c'est les deux tiers, sinon les trois quarts des volumes. Bon, en prêt-à-porter. Mais le gros chiffre d'affaires, il est fait par les verres complexes, qui sont en général des gens qui sont astigmates, c'est-à-dire qu'ils ont des yeux comme des mandarines, avec un angle. Donc, c'est plus un œil sphérique. Donc, il faut corriger l'astigmatisme. Ça, c'est un cauchemar. Et donc, il faut faire un verre spécial. Parce que vous n'avez jamais les mêmes astigmatismes et jamais les bons angles. Donc déjà, c'est un cauchemar. Et puis ensuite, quand vous devenez presbyte, c'est-à-dire que ça arrive avec l'âge, à ce moment-là, votre œil n'arrive plus à accommoder. Et il faut mettre des corrections plus fortes dans le bas du verre et de façon à ce que vous leviez la tête pour changer la correction du verre et à ce moment-là voir clair. Autrement dit, c'est pas un effort des muscles de vous concentrer pour voir bien, c'est simplement en levant la tête et en utilisant le bas du verre, mais vous n'êtes pas encore presbyte, mais ça vous arrivera forcément. Bon, et vous corrigez. Donc à ce moment-là, c'est un verre que vous devez apprivoiser, un petit peu comme un outil. Hein, et là, c'est le verre progressif. Et là, c'est faire un progressif, c'est un cauchemar. Alors on fait ça en deux étapes. On commence à faire une ébauche dans laquelle on va mettre, en gros, sur les faces avant, toutes les additions. Et tout ce qui est myopie, hypermétropie, astigmatisme, on va le mettre sur la face arrière avec une deuxième des machines très sophistiquées. Et donc, les systèmes de production, ils ont deux niveaux. Vous faites le prêt-à-porter, les ébauches, c'est ce qu'on appelle la production. Et puis, vous avez ensuite des usines de prescription, c'est celles qui vous font les verres à l'unité. Alors, il faut savoir que le gros chiffre d'affaires est fait par ça. Ben oui, parce que le sur-mesure, parce que les verres, les usines de prêt-à-porter, c'est des volumes gigantesques. Hein. Et s'il y aura 1 milliard de clients, pour vous dire, hein, c'est, on a autant de clients que Microsoft et tout ça, c'est 1 milliard de clients, c'est un vrai leader mondial. Hein. Et donc, à ce moment-là, les volumes sont gigantesques. Donc, vous avez ça, et donc le prêt-à-porter, c'est... Alors, ce qui est, c'est très cher, parce que on a des gammes extrêmement fines. Hein, on est capable d'aller au 10e de dioptrie, au 20e de dioptrie. Donc, les gammes, c'est un cauchemar de finesse. Hein. Donc, c'est des très gros volumes, mais vous avez un système logistique de stock absolument effrayant. Hein, bon. Mais du côté prescription, c'est que des verres qui sont faits à l'unité. Et alors, en général, les industries sont structurées avec un métier de profession qui font les semi-finis, donc les verres, les ébauches, qu'on appelle semi-finis, et les verres de prêt-à-porter. Et puis, vous avez une deuxième partie de la profession où vous avez toutes les petites usines de finition et les centres de stockage de tous les verres de prêt-à-porter. Et c'est ces gens-là qui discutent avec les opticiens. Et alors, le coup de génie qu'on a eu, c'est que ceux-là étaient nouveaux venus, donc ils étaient très forts en verres de prêt-à-porter et aussi en ébauche. Excellent en ébauche. Ils faisaient des très, très bonnes ébauches. Par contre, ils n'avaient pas la prescription. Alors qu'Essilor, en Europe, avait à la fois la couche. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, cela, il travaillait avec les Américains à travers les laboratoires de prescription. Alors, on appelle ça laboratoire de prescription. C'est un mot qui n'est pas bon. C'est pas un laboratoire, c'est une usine de prescription. Et il y a des stands de stockage qui livrent les opticiens. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté les gros laboratoires. Et donc, ça, on l'a privé, ses clients. Et alors, le coup très fort qu'on a eu, c'est qu'on l'a fait en surprise. C'est-à-dire qu'on l'a fait l'été 96. Moi, j'étais nommé PDG en juin 96. Et j'ai passé avec Philippe Alfroy. Alors, Philippe, on en parlera beaucoup. Il compte beaucoup pour moi. C'était le DG. Et donc, on a fait un duo, en fait, hein. Xavier venait de l'extérieur. C'était le PDG. Philippe est quelqu'un qui avait la maison. DG. Et on a singé, on a joué le duo qu'avaient fait nos prédécesseurs, grand-père et Temkin. Hein, Essilor, c'est une fusion des Essilor. Et la fusion a été faite entre égaux. Avec les deux PDG qui alternaient tous les ans pour montrer qu'on faisait, oui, c'était le coup. Et donc on a refait ça et tout de suite les équipes ont vu qu'on travaillait en équipe et donc ça a été une équipe très soudée. Et donc ce qu'on a fait, c'est que Philippe et moi plus Ster, le grand patron des US, on a passé l'été 96, on a racheté les plus gros distributeurs dans le plus grand secret.
Et tous en même temps, quasiment, quoi.
On a fait croire, c'est un coup absolument extraordinaire. Je peux pas tout raconter tellement c'est génial. Mais ce qui est génial, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les plus gros clients, on leur a expliqué la stratégie. Et quand vous expliquez la stratégie, les gens nous ont vendu leur boîte pour participer à la stratégie. Parce qu'ils ont trouvé le truc tellement génial.
Ils voulaient en être, quoi.
Allez, moi, je vends ma boîte, puis je ferai autre chose après, mais je participe à la grande stratégie. C'est-à-dire qu'on a été capable de passer notre stratégie à nos clients. Et donc, on a fait ça dans le plus grand secret. Et en septembre, première semaine, paf, dans la foulée, on annonce tout. Alors là, toute la concurrence était totalement paniquée. Alors, il s'est passé, évidemment, ce qu'on attendait, c'est que Oya et Sola ont dit, Essilor fait de la prescription, il devient votre concurrent. Et donc, ils se sont précipités sur tous les laboratoires qu'on n'avait pas achetés, pour vous dire, maintenant, allez, vous virez Essilor, etc. Sauf que, on avait tout anticipé, et on avait un produit absolument génial, qui était donc des verres anti-reflets. Donc, les Américains, si vous voulez, n'avaient pas des très gros savoir-faire d'aval. Donc, leur vernis était pas bon. Les vernis qu'on met sur les verres. Ils avaient pas ce qu'on appelle les anti-reflets, qui empêchent d'avoir des reflets. Et donc, en même temps qu'on a fait l'acquisition, on a donné des licences à tous les laboratoires, avec les savoir-faire de machines, et quand ceux-là, Oya, sont arrivés, on leur a dit, attendez, on a beaucoup mieux, on va vous aider à rentrer dans un nouveau métier qui est le vernis, l'anti-reflet sur les verres, qui est un métier... Et à ce moment-là, notre discours est passé, et ceux-là, Oya, ben, ils ont raté les trois quarts des trucs. Puis alors, le coup qu'on a fait après, alors là, c'était un coup absolument génial, c'est que, j'en parle, ça m'amuse tellement, c'est tellement amusé, donc pendant 2-3 mois, c'était la bataille Chrysal contre Oya Sola qui disait qu'il fallait passer chez eux. on a réussi à les foutre en l'air. Et alors, le coup d'après, c'est que nous, alors, on parle beaucoup de Carole et de Fabienne, ouais, les deux femmes des Sylors. Alors, elles ont monté un truc très marrant, c'est qu'elles ont monté un truc où on...
Qui est en charge des finances, achète, si je me trompe pas.
La finance et juridique. Et on a proposé à tous les labs de les racheter. On dit, si vous voulez, on fait un joint venture. Et alors, le truc génial qu'on a fait, c'est que on a proposé des participations dans lesquelles on prenait 51, on leur filait 49. Et c'est-à-dire que nous, on avait besoin de 51 pour consolider puisqu'on était cotés en bourse. Et donc, en fait, ils touchaient la moitié du fric, et ils gardaient leur métier. Et ils rentraient dans la famille. Et donc, la succession de ces trois coups fait qu'on les a combien? Et on l'a fait.
Ça, ça s'est fait en combien de temps? C'était en plus très rapide, enfin, en deux ans.
Ah ben, c'est alors. C'est là, c'était très rapide, c'est exactement le goût derrière.
Hein. C'est un peu la blitzkrieg, franchement. Enfin, c'est si on reste. Ouais.
Donc, ça a été. Je suis tout ému en parlant. En fait, on s'est tellement amusé. Et c'était le truc qui était prévu. C'est-à-dire que pendant tout le début de l'année 96, on avait mis au point tous les trucs. Et ça s'est passé comme on l'avait prévu. Alors là. Et alors, le truc qui s'est passé, le seul truc qu'on n'a pas prévu, vous voyez, j'ai des petites pressions. Le seul truc qui s'est passé, qu'on n'a pas prévu, c'est que Sola, on l'a mis en faillite. Il est tombé. Tellement on a cogné fort. Et on n'a pas eu le droit de le racheter, antitrust américain, et c'est Zeiss qui l'a racheté. Et donc, on a remis Zeiss, le Zeiss qu'on avait coulé, on l'a remis dans le circuit. Parce que il a racheté. Bon. Alors, nous, en fait, ça ne nous faisait pas peur. Parce qu'on l'avait tellement désingué l'autre que pour Zeiss, ça l'a fatigué de reprendre la boîte. Donc il a fait, il est devenu vraiment le numéro 2-3 mondial. Mais il en a pendant 10 ans, il en a bavé. Il en a bavé. Voilà. Vous voyez l'histoire?
Xavier, c'est absolument incroyable et je dois dire que j'incite toutes les personnes qui nous écoutent à lire le livre parce que c'est une aventure en fait. C'est une aventure. Et là, quand vous m'en parlez, on sent à quel point, mais vous vous amusiez, vous le dites vous-même. Et c'est fou parce que pourtant, le business, on peut se dire, c'est dur, c'est fatigant, c'est vous êtes dans l'avion. Enfin, je peux imaginer qu'il y a aussi beaucoup de compromis.
Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que les entreprises ont une mauvaise image en France, vous voyez. Et que moi, je veux faire ça pour montrer que c'est fabuleux. Et donc, il y a un jeu. Alors, par contre, si vous voulez, c'est là où le savoir-faire stratégique est capital. Parce que quand vous n'avez pas le savoir-faire stratégique... Ben, toute action est casse-pieds. Moi, si ça vous amuse, je vous fais la stratégie du gratin. Vous m'expliquez l'échiquier. Je vais vous dire ce qu'on a, le deal qu'on va passer, si vous voulez, c'est que il faudrait que vous fassiez jouer toutes vos équipes à Stratena.
À Stratena?
Ouais, alors.
C'est quoi?
Alors, on va changer de braquet. Moi, je suis à la retraite, si vous voulez, depuis 8 ans. Et donc, je me suis consacré à la pédagogie de l'économie. Donc, mon but, c'est que tous les petits Français comprennent ce que c'est que la stratégie. Donc, c'est comme ça que, donc, j'ai commencé à faire une fondation pour donner des bourses à HEC, je suis devenu prof à HEC. Le hasard de la vie, encore un, fait que j'ai eu des enfants d'Alain Veil comme élèves à HEC, qui ont dit, papa, oh, c'était la fille, c'était la nièce, ce que raconte Xavier, c'est fantastique. Du coup, je me retrouve à la télévision. Alain Veil me dit, mais Xavier, faites le cours de stratégie aux journalistes.
Qui était le président de BFM.
Le président de BFM. Hein. Et bon, puis après, il me dit, écoutez, votre truc, c'est fantastique, je vous donne entre milliers une émission. Voilà. Et donc, moi, je prends, je lui dis, OK, donc, on trouve des sponsors, parce qu'il faut quand même trouver des sponsors. Et donc, c'est BCG, il y a eu la Banque Lazare, qui ont fait sponsor. Et puis, donc, je me suis lancé dans, donc, j'en ai fait 150 émissions. Et là, on commence la quatrième année. Hein. Donc, vous avez tout de suite, gratuit, 150 émissions de stratégie. Vous avez donc sur BFM, business que vous chargez, vous allez après sur le site sur émission, BFM Business, oui, sur émission, vous voyez ma bouille, vous cliquez dessus, BFM Stratégie, et vous avez toutes les émissions, d'accord? Alors vous prenez les premières, hein, et puis à ce moment-là, ben vous en
on
faites
a
une.
Un cours de stratégie.
Vous
par
avez, alors
moi
je veux dire, c'est 50 ans d'avance sur les meilleurs cours de Harvard. Je crains pas de le dire. Donc, un élément qui joue aussi beaucoup, c'est que je pense que Bruce Anderson, le fondateur du BCG, est un véritable génie. Le BCG, avec le concept de stratégie qu'on a monté, on a 100 ans d'avance sur tous les économistes. Ce n'est pas assez enseigné actuellement. Et donc, moi, j'ai aussi, à la fois ça m'amuse beaucoup, mais il y a une petite dette à l'égard de Bruce Anderson de pousser ses idées. Hein. Alors le BCG m'a donné l'accord pour vraiment faire un cours à partir de ces concepts qui sont dans le domaine public puisque ils ont été inventés il y a 50 ans. Et là je m'éclate parce que ça part dans tous les sens. Vous voyez, j'étais en Bretagne, là je pars à Marseille, et donc on est en train d'installer. Alors la technique c'est Stratena, j'y vais avec une boîte du midi. Stratena c'est un jeu de stratégie, et donc vous l'achetez sur Apple Store, et vous avez pour 3 mois, vous avez 6 ou 7 échiquiers. Donc on vous met comme PDG, vous êtes par exemple, on vous met dans l'impôt du PDG de Toyota contre Volkswagen, Tesla et tout ça, et vous prenez des décisions rapides. C'est un peu comme Risk, vous avez joué à Risk, voilà. Et ben c'est du Risk mais en plus puissant, hein. Et donc vous décidez de vous endetter, vous émettez des actions et puis on voit, alors je vous ai collé des intelligences artificielles contre vous. Et vous jouez. Alors, vous vous plantez au départ parce que vous faites évidemment faillite. Alors, pourquoi j'ai fait faillite? Bon, ben, je vais voir le cours 27. Vous recommencez. Ah oui, mais je me suis pas assez endetté. Chut, je vais voir le cours 18. Et puis, vous cyclez entre les cours. Alors, j'ai mis aussi des cours dans le Stratena. Donc, vous avez des cours avec des quiz. Et puis, vous, toute seule, vous jouez à ça. Et puis après, vous faites des stratèges. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que chaque personne du gratin, parce que pour que je vous aide, il faut que tout le monde soit stratège. Hein? Sinon, on va se fatiguer. Donc,
Mais il faut, c'est intéressant de le dire pour les personnes qui nous écoutent aussi, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe doivent être au niveau.
Votre assistant doit être stratège. Oui, ouais. Bon. Et après, on s'amuse, on va s'amuser, vous m'expliquez vos concurrents, on fait l'échiquier, puis on va s'amuser à faire pareil. Je vais vous dire comment on les prend, on va le faire ensemble, et vous-même, vous allez, avec vos équipes, dire non, l'échiquier, c'est celui-là. Moi, je serai là plutôt pour vous aider. Et puis, je vous dis, rendez-vous dans 10 ans, on commence à rigoler, là. Hein, on commence à s'amuser. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez un peu ma technique. Vous voyez? Hein? Mais, ça suppose que toute l'équipe soit au niveau. Sinon, les discussions de stratégie sont pas intéressantes. Et alors, si vous voulez, l'intérêt d'avoir des équipes stratèges, c'est que toute l'info du terrain vous vient. Elle vient par les équipes aussi, hein. Vous avez beaucoup d'infos qui vous viennent, mais beaucoup d'infos viennent des équipes. Donc, il faut absolument que tout le monde soit stratège. Tout le monde grimpe.
Donc, on est prof, en fait, quand on est dirigeant.
Voilà. Mais vous êtes un prof confronté à la réalité, hein. Vous êtes comme un prof de ski. Vous comprenez? Problème du prof. Et moi, bon, il y a des tas de profs géniaux, il faut tous aimer. Mais l'économie, c'est très dur à enseigner si on n'a pas pratiqué. C'est comme si on enseignait le ski sans savoir skier. Ou est-ce que vous êtes un maître nageur qui ne sait pas nager, est-ce qu'il peut apprendre à nager?
Ah oui, je suis bien d'accord.
Alors, il faut des profs pour le français, pour les maths, il faut ça. Mais enseigner l'économie, moi je pense que c'est une impasse. Hein. C'est une impasse. Donc moi ça m'amuse de contourner le système. Alors, il faudra le faire avec l'éducation nationale un jour ou l'autre. Il faudra. Mais il faut comprendre que c'est très difficile d'enseigner la stratégie entreprise, si on n'a pas été soi-même dans une entreprise à des postes de responsabilité, c'est pas possible. C'est un mystère, hein, faire une vente. Pas facile, hein. Tout le monde dit c'est facile, on manipule les gens, mais tous les gens qui disent ça, ils ont jamais fait une vente, hein. Moi, je sais ce que c'est que faire des ventes, hein, et des ventes rentables. C'est une autre paire de manches, hein. Donc, voilà. Vous voyez, donc, si ça vous amuse, on essaie de voir comment le gratin, on peut en faire, on va voir.
Et puis, vous savez, j'ai une autre boîte aussi, j'ai une marque de joaillerie qui est là où on est aujourd'hui.
Ah oui.
Et là aussi, je serais très intéressée d'avoir...
Alors là, on rentre dans un autre truc, là.
Ah bah non, vous savez, il y a beaucoup de stratégies
à construire.
Alors,
je vais pas me hisser au-dessus de ma condition. Vraiment, je comprends bien le business. Dès qu'on rentre dans le luxe, on rentre dans un autre monde.
C'est un peu différent.
Bon, je comprends le truc. Hein, mais
la stratégie, je pense que c'est similaire.
Oui.
C'est plus
sûr. Il faut vraiment créer des marques fortes, si vous voulez. Bon, c'est-à-dire, mais on va rentrer dans les... Mais tout à fait, on peut s'amuser avec les marques de luxe, évidemment. Bien sûr.
Xavier, je voulais vous demander cette aventure, parce que c'est vraiment ça. Et si l'or, du coup, pour vous, c'était de 90 à 2013, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même... 30 ans.
Et plus que ça, parce que, si vous voulez, en fait, et si l'or, vous savez, est le premier client du BCG.
Ah oui, c'est ce que vous aviez commencé
donc
comme ça.
Donc j'ai fait 73-81, ouais. Avec beaucoup d'intensité. Évidemment.
Et je voulais vous demander, cette vie qui est en plus une vie très internationale, enfin ouais. Une vie où on voit que vous vous amusiez, vous aviez ce jeu d'échecs devant vous,
ah oui.
Mais ça devait être aussi quand même une vie de compromis sur votre vie personnelle, je peux l'imaginer.
Oui, mais là, je rends hommage à mon épouse et à mes filles, si vous voulez. On a quand même réussi à garder un bon équilibre, parce que il y a eu l'équilibre des vacances, qui était vraiment sacré, et puis on avait une maison en Normandie. Donc j'arrivais quand même, au moins une semaine sur deux, on passait des bons week-ends, vous voyez. Donc on a réussi à garder l'équilibre, on arrive. Mais c'est au prix, le vrai sujet c'est la fatigue des voyages, si vous voulez, c'est que j'étais quand même à 500 000 km par an, j'ai dû faire même 750 000 une année, vous voyez. Parce que ce qui est épuisant, c'est quand vous avez une boîte mondiale, parce que vous avez l'Asie et vous avez les US avec des décalages horaires dans l'autre sens, vous voyez. Alors quand on ne fait que l'Asie ou quand on fait que les US, c'est encore vivable. Mais quand vous êtes obligé de faire... Et puis quand vous avez hémisphère nord et hémisphère sud, ça rentre l'horreur absolue parce que vous passez de l'été à l'hiver. Et donc moi j'étais vraiment physiquement, quand je suis parti à 65 ans, là vraiment j'étais déglingué. Hein. C'est-à-dire que j'avais des problèmes de digestion, c'est-à-dire que on vous levez à 2h du matin, on peut pas dormir, il faut se faire un steak pour manger. Donc on prend un steak à 2h du matin, puis on s'endort tout de suite, parce que l'estomac est totalement déréglé. Vous voyez, c'est le problème avec les décalages horaires. Et puis j'avais beaucoup, c'est un détail un peu sordide, mais il faut quand même le dire, parce que on avait acheté beaucoup de sociétés en Chine, en Inde, vous voyez. Donc quand vous faites des acquisitions, il y a toujours des petites fêtes, etc. Et j'avais les gencives complètement dézinguées par des... J'avais des bactéries dans les dents.
Les épices, les trucs.
Et ça avait probablement, il y avait des trucs qui venaient du Brésil, surtout de Chine et Inde, où j'avais des bactéries, j'ai failli perdre des dents, quoi. Donc... Ah non, c'est
mais c'est pour ça que je voulais vous poser la question, parce que finalement, réussir, c'est un marathon le truc,
oui, c'est
même pire qu'un marathon.
C'est
30 ans, autant de voyages, autant d'intensité.
Mais tous les grands patrons du 440, tous les Agon, les Ogis, les Tricoires, tout ça, les Ribous, tous pareils. Hein.
Oui,
on discute entre nous, et phobie des avions maintenant.
Mais
moi j'ai phobie des avions, je ne peux plus supporter. Ah oui.
Bah, ça tombe bien avec le Covid.
Bah, oui. Donc, on a tous en commun. J'ai discuté avec Franck, c'est pareil. Il y a à un moment donné, parce que quand vous voyagez, il y a des trucs marrants, puis il y a les soucis quand même, hein. Parce qu'il y a les trucs marrants, puis il y a quand même toutes les bêtises. Donc, les voyages, c'est toujours chargé de, on sait qu'on a des soucis, quoi. Il y a des problèmes graves à régler. Donc,
vous avez essayé de mettre en place une hygiène, justement, pour réussir à tenir le coup pendant aussi longtemps.
Oui. Alors, effectivement, vous avez raison. Mais, écoutez, vous êtes bien, vous êtes pas mal, hein. Dommage que vous auriez fait une belle essilorienne, hein.
Bon. C'est sympa.
Ah oui, tout de suite, en discutant, là, je dis, oh là là, ça y est, vous voyez, je vous fais l'offre, là, hein. Bon. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on avait les sièges. On avait le siège US à Boston. Et l'aller-retour Boston, retour est épuisant. Parce que vous voyez, le vol est court, le temps de vous endormir.
Oui, 6 heures, c'est terrible.
Oui, mais c'est 3 heures, parce que le temps de vous endormir, c'est épouvantable. Et là, ça vous désingue. Alors, un des éléments qu'on a fait, c'est qu'on a mis le siège à Dallas. Parce que quand vous êtes à Dallas, vous avez 8h30 de vol.
Vous avez plus le temps
et le retour, en plus, vous êtes avant contraire, et le retour vous 10 heures parce que il y a les vents freinent l'avion, il met plus de temps. Et donc le retour, vous pouvez dormir. Donc la technique que j'avais, c'est que quand j'allais en Asie, je partais toujours le soir, je dormais, donc je m'arrangeais pour aller au Japon. Donc on dormait comme ça 12 heures, j'arrivais à 5-6 heures du soir à Tokyo. C'est la seule fois où je prenais
des cachets
pour dormir, et j'enfilais 2 nuits de suite, vous voyez. Et quand je me réveillais, j'étais en forme. Bon, et quand on rentrait, à ce moment-là, c'est toujours le même système, je rentrais systématiquement le soir, et à ce moment-là, vous avez encore, alors là, 12-14 heures d'avion, et à ce moment-là, j'arrivais le matin, mais j'avais une nuit complète. Vous voyez, et c'est pareil. Et quand j'allais aux US, c'était le même système. Je partais et je m'arrangeais pour arriver à 8 heures du soir, recachais et je redormais dans la foulée. Vous voyez, je prenais 2 nuits. Bon, mais après ça suffisait pas parce que vraiment on est crevé. Parce que ce qui est terrible dans tous ces voyages, c'est que et moi, vous voyez, rien qu'en parler, ça me fatigue. Je ressens de nouveau la joie. Je vais pas finir l'interview. Donc je vous en parle, ça me fatigue. Et donc le problème très très dur, c'est que on a quand même, faut tenir la fatigue.
Ah, ouais, bien sûr.
Donc, faut être en très bonne forme. Hein.
Mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que bon, après là, en ce moment, on voyage moins, mais tenir le coup quand on est entrepreneur.
C'est ahurissant.
C'est en fait une partie du job.
Bon,
quoi.
Les grands patrons du 440, on est des gens détestés, tout ça. Bon, mais on n'a jamais parlé des soucis. Hein. Je peux dire qu'on s'en est pris plein la figure. Hein.
Et moi, l'un des plus gros soucis, c'était quoi pour vous? Donc
ah
la,
non,
fatigue.
Non, la fatigue. La fatigue,
la fatigue.
Ah non, mais on se rend compte qu'à un moment donné, où si on continue à faire les zozos, ça devient danger. On a quand même eu des accidents, quand même. Hein. Non, je vais pas les mentionner, pas mentionner dans le livre, mais on a quand même eu des dirigeants. Qui ont bon, non, on les a sauvés, mais d'un seul coup, ils finissent à l'autre.
Mais donc, alors, il faut avoir conscience aussi.
Moi, j'ai imposé des visites médicales hein. Avec Vidal, dont je parle beaucoup, qui est le DRH très très important pour nous. On a imposé des visites médicales très très sérieuses tous les ans, hein. Très très sérieuses. Donc, pour éviter mélatonine, tout ça, faut interdire. Hein. C'est... Donc, on avait quand même. Il y en a un qui était vraiment les plus brillants, qui a eu un souci. On a tous réfléchi. Là, on a dit, attends, on arrête les bêtises. Hein. Donc là, on a calmé le jeu. Hein. On a calmé le jeu. Calmé les jeux.
Alors justement, pour terminer, j'aime toujours poser des questions un petit peu personnelles. Bon, on n'a pas du tout parlé de tout ce que je voulais parler, mais je vous réinviterai, Xavier. Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, vous me ferez le cours
oui,
de stratégie.
Oui, parce que attendez, là, on a vu que vous n'avez pas effleuré le cours. Là,
bah
on
fait non, des... je
oui,
sais bien.
Des... Donc, vous, voyez, si vous, êtes, vous êtes. Alors, vous voyez, vous tombez dans la tyrannie. Ah là, votre cas s'aggrave, cher ami, parce que il faut. On tombe dans la tyrannie.
La tyrannie.
Bah, la tyrannie du temps.
Bah oui.
Et
c'est
oui.
Terrible.
Mais vous voyez, donc, vous êtes en train. De confondre l'urgent et l'important.
Non, je
confonds
pas.
C'est un des éléments clés de la stratégie. Donc là, écoutez, cher ami, votre cas, votre cas s'aggrave.
Ah.
Bon, je vous écoute.
Alors, je ne serai pas recruté chez Epsilon.
Ils vont faire une seconde.
Mais c'est pour ça. C'est, vous savez, au contraire, j'ai une stratégie, Xavier.
Vous êtes rentré dans le monde passionnant de la stratégie avec l'histoire américaine.
Mais qu'on a effleuré.
Bah attendez.
Bien sûr.
Et puis la
mais
suite.
J'en ai conscience. Mais vous savez
ah,
ce quelle est ma stratégie?
Bon, votre cas s'améliore.
Non, mais vous savez, je vais même vous dire quelque chose de mieux. J'ai une stratégie, c'est de vous réinviter peut-être même plusieurs fois. Et donc, je fais aussi
bon,
monter
d'accord.
Le désir. Moi, vous savez, j'ai une marque
d'accord.
De luxe, donc je sais faire monter le désir auprès de mon audience qui
d'accord.
Voudra vous entendre deux ou trois
d'accord,
fois.
D'accord.
Donc tout ceci
donc,
une discussion.
Donc vous collecterez les avis de tout le monde.
Tout ceci
et on améliorera
s'inscrit.
Ça parce que je commençais à me dire vraiment pas mal. Non, parce qu'évidemment, après, il faut voir que vous avez vu le premier coup. Mais les coups d'après ont été ils ont été aussi splendides. Il y en a deux, trois, c'est de l'anthologie. Hein.
Vous me les gardez pour une prochaine
hein
fois
hein.
Vous serez dûment réinvité.
Très bien.
C'est une obligation même. Je termine toujours par parler de quelques éléments un peu plus personnels, comme là, on l'a évoqué via l'hygiène, qui je trouve est très important parce
bien
que
sûr.
Justement, c'est aussi
mais
grâce
il faut,
à ça.
Il faut inspirer confiance. L'aspect physique du PDG est capital. Si vous voulez, vous passez des
oui,
ondes.
Si vous avez l'air décrépit, ça va
ah
pas.
Oui,
quoi.
Si vous arrivez malheureux et tout, c'est foutu. Donc, il faut arriver toujours en forme. Et puis, il faut, si vous voulez, le truc très compliqué, c'est comme l'écoute. Il y a des vraies écoutes et des fausses écoutes. Il y a des gens qui vous écoutent, mais vous savez qu'ils pensent à autre chose. Hein. Donc ça, vous avez tout de suite. Donc il faut une vraie écoute, il faut une vraie présence, et puis quelque part il y a une espèce de, alors c'est ce qu'on appelle le mystère du charisme. Qu'est-ce qui fait que on écoute quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on l'écoute? Ça c'est un nouveau mystère. C'est encore plus compliqué que la confiance. Alors je vous expliquerai, j'ai mes idées là-dessus.
Vous pouvez m'en dire deux, trois. Alors si vous me lancez des perches comme ça.
C'est l'importance des mamans.
Des mamans.
Des mamans.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Quand les mamans sont bien occupées, alors les papas aussi. Hein, je dirais les papas pour les filles et les mamans pour les garçons, il faut avoir été aimé. Et je pense que le rôle, je vois tous les garçons, les filles hyper brillants qui n'ont pas passé le mystère du charisme qui fait que vous nommez quelqu'un de responsable d'une division ou d'un pays et d'un seul coup, il diffuse la confiance.
Parce qu'il a lui-même confiance en lui,
voilà.
Ou en elle.
Et d'où ça vient? Et moi, je suis sûr que c'est l'amour. Pour les garçons, c'est l'amour de la maman. Et pour les filles, l'amour du papa.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ben, c'est le nombre. Parce que j'ai une cinquantaine de cas. Et à chaque fois, j'ai vérifié. Alors, c'est très difficile à dire. Mais ça veut dire aussi que quand on a des enfants, il faut vraiment s'occuper des enfants très fort dans le jeune âge. Parce que là, on crée, à mon avis, on structure. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça. Mais je vous parle d'expérience. Et donc, j'ai vu des cas d'échecs. Et quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, c'était les papas et les mamans. Ben, vous voyez, je suis sûr que les garçons, c'est l'amour de la mère et les filles, c'est l'amour du père. Alors, l'amour de la mère, ça compte pour les filles. Mais je pense qu'il faut passer beaucoup de temps. Donc là, on rentre dans les trucs très, très fondamentaux. Je sors de mon terrain et j'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais.
Vous avez tout le droit.
C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, vous voyez. Donc ça, c'est le truc le plus compliqué. Alors ça, c'est très compliqué, hein, parce que aller chercher dans les familles ce qui s'est passé, c'est pas très normal, mais voilà, moi, je crois ça. Et donc, il faut après connaître il y a aussi les difficultés qu'ont eu les enfants. C'est sûr aussi que si les enfants ont eu des soucis, il y en a certains qui sont sortis renforcés, vous voyez. Donc là, c'est un mystère aussi. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert comme enfants, qui ont réussi à dominer ça, qui sont les plus forts, par rapport à des enfants où tout est arrivé facile. Donc il y a la dimension de l'amour des parents, et puis savoir aussi les difficultés qu'ont eu les enfants, et la façon dont ils ont réussi à les dominer, ça compte énormément.
Je crois que c'est très vrai, ouais.
Mais il y a aussi des enfants qui ont eu des vies très heureuses, sans de trop gros, et qui arrivent à s'en tirer aussi. Il n'y a pas de cas d'école.
Est-ce que vous avez dans votre vie, justement, vous, vécu une grande difficulté, un grand moment de doute, un échec même peut-être dont vous pourriez nous parler ?
Ouais, les échecs, c'était surtout sur les personnes. Je me suis trompé sur les personnes, parce que je fais trop confiance.
Mais ça arrive tout le temps.
Bah oui.
Et vous regrettez ?
Alors la technique que j'avais, si vous voulez, c'est qu'on s'était entouré de collègues qui étaient très méfiants. Je ne vais pas dire qu'Alfroy ou Vidal étaient des gens méfiants, mais c'est des gens qui étaient beaucoup plus raisonnés que moi. Ils disaient, Xavier, tu te trompes. On se vous voyait entre
nous. Et vous les écoutiez ?
Vous, bien sûr. Vous vous trompez. Alors, la technique, avec Philippe, qui est un gars très, très discret, il disait, Xavier, sur ce truc-là, je vous suis pas. Donc, quand il dit, sur ce truc-là, je vous suis pas, moi, j'arrête tout de suite. Et on laisse passer un mois.
Donc, vous aviez confiance en lui, sur son jugement.
Et Vidal, c'est pareil, le DRH avait un pif absolument exceptionnel. Et il disait, donc, Xavier, là, je suis comme Philippe, je vous suis pas. Alors, quand c'est ça, on arrête tout de suite. Et alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant en stratégie, c'est que je parlais de l'urgent et de l'important. On va dire, les situations d'urgence sont rarissimes. La situation d'urgence arrive quand on s'est fait surprendre. Mais bon, quand vous êtes un très bon stratège, vous arrivez à anticiper tout ce que fait l'autre. Donc vous êtes rarement surpris. Ce qui fait qu'on n'est jamais dans l'urgence. Et donc décaler d'un mois, ça n'a jamais aucune importance. Se redonner le temps. Vous voyez ? Alors après, il y a des moments donnés où il faut forcément décider. Alors, moi, je disais, écoutez, je décide dans ce sens-là, et puis on se donne. Alors, on s'est changé des bocs de bière, quoi. Si la décision est bonne, vous voyez. Donc, il y a un moment donné, il faut, c'est comme un bateau, vous êtes devant un caillou, ben, faut tirer le bord à gauche ou à droite, hein. Donc, il y a un moment, alors on dit, il vaut mieux aller à gauche ou à droite, il y a un moment donné, on vire, bon. Vous voyez? Parce qu'il faut avancer. Mais, j'étais très rarement confronté à ces situations. Moi, c'est des erreurs sur les personnes. Okay. Je sais que c'est mon défaut.
Un excès de confiance.
Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui vous. Alors, si vous voulez, il faut que les gens disent. Alors, un des éléments les plus importants que je trouve créer, c'est on peut ne pas être d'accord et s'apprécier. Ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants.
Ouais, c'est fondamental.
C'est Brignon qui a été le mieux qu'il y avait. C'est qu'il dit, Xavier, vous pouvez pas être d'accord avec moi sur un sujet fondamental. C'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Parce que vous avez le chantage affectif. Vous savez, tout le monde joue de ça. Ah, ben oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est parce que je suis une femme. Ou je suis pas d'accord avec moi parce que vous m'aimez pas. Vous voyez le chantage? Alors là, quand vous commencez à accepter ce genre d'adresse, vous foutez tout en l'air. Parce que vous foutez le concept même de la discussion. Il faut être capable de se dire des choses dures en continuant de s'apprécier. Et on se dit la chose dure parce qu'on s'apprécie. Alors ça, c'est un des trucs les plus compliqués dans la confiance à faire régner. Vous voyez? Et là, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas toujours
expliquer patrons. Que c'est pas personnel finalement.
Voilà. Hein? Et souvent les équipes, moi j'étais souvent sauvé par les équipes. C'est pas moi qui le disais. C'était un membre de l'équipe qui dit écoute, tu débloques. Attends, ne nous fais pas le coup, ne nous prends pas pour des idiots. Et donc là, c'est souvent le collectif est très utile. Vous voyez dans ce truc-là. Donc ça, c'est des points clés. Ça.
Ça m'évoque le mot égo. Cette ouais. histoire. Ben, est-ce qu'il faut avoir de l'ego quand on est un dirigeant comme ça? Est-ce qu'il faut savoir le mettre de côté?
On en revient à la discussion initiale de confiance. Le premier pilier, c'est la confiance en soi. Et je vous disais qu'il faut pas. La confiance est une fine ligne entre l'arrogance, l'ego et la flagellation continuelle. Vous voyez? Donc, il faut avoir une fierté. Faut avoir confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas mais le mot ego, il faut attention. Moi, je dis être bien dans ses pompes. Il faut être bien dans ses pompes. Voilà, c'est ça. Et vous savez, les gens sont très malins. Ils savent tout de suite quand on dévie. Ils savent très bien. Hein? Et je vais vous dire, ceux qui comprennent pas, faut pas les mettre dans les équipes. S'ils comprennent pas, non, écoute, très bien, t'es trop bon pour nous. Hein? Donc va jouer ailleurs. Donc en fait, il faut travailler avec des gens qui comprennent ça. Donc, il y a tout le choix des gens qui est très subtil. Hein. Donc, bien sûr, il faut de la confiance en soi. C'est quand vous verrez, si vous acceptez d'écouter mes histoires,
je vais
les
faire.
Plus belles. Bon,
c'est quand je vous vais avez, commencer par la leçon numéro 1.
Quand
même.
Vous avez commencez par le 1, 2, 3, et vous les faites toutes. Hein. Oui, oh, oui, mais oui. Attendez, moi je ne viens que quand vous avez fait quand vous avez fait les 25 premières.
Oh là là, mais c'est du chantage, ça,
Xavier. Les 25 premières. Non, c'est pas du tout, c'est pour votre bien.
Très bien.
C'est pour votre bien, vous allez comprendre tout de suite. Non, mais dès que vous avez commencé les émissions, vous ne pourrez pas vous en passer, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, c'est mon Netflix à moi. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont dit que les émissions BFM Stratégie, c'est Netflix. Hein. Ils remplacent les trucs de Netflix.
Non, mais vous n'avez plus besoin de me convaincre, Xavier. Je suis hautement convaincu.
Alors, je pense d'ailleurs qu'il faut ça parce que ça va vous faire grimper et l'interview sera encore meilleure. Mais vous verrez, quand vous avez quelqu'un comme Sato comme concurrent, je peux vous dire, vous avez intérêt à être... c'est Federer avec Nadal. Hein. Mm. Vous avez intérêt à être bien vos pompes, hein, parce qu'en face, il l'est. Et ce qui est absolument prodigieux, c'est qu'à ce moment-là, vous grimpez, parce qu'il vous tire vers le haut.
Oui.
Tire vers le haut.
J'allais vous demander s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, chez Sylor ou autre, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous referiez différemment?
Non, c'est une question que je ne me suis jamais posée. J'arrive même pas à me poser la question. Ah, attendez, non. J'ai pas comme ça que je me pose la question. Attendez, votre question, en fait, elle est... Non, votre cas s'améliore, là. Votre question est très
c'est
bonne.
C'est un peu les montagnes russes avec
cas,
vous, Xavier.
Votre cas s'améliore. Votre cas s'améliore. En fait, je raisonne pas de trucs à refaire. C'est des rencontres. Si vous voulez, moi, je suis rentré au BCG pour une raison dingue. J'avais accepté un job chez Creuse-Loire. Et lundi matin... Et puis, dimanche soir, appel d'un copain qui était au BCG, François de Carbonel, qui me dit, Xavier, qu'est-ce que tu fous? Ah, ben, je rentre chez Courtois. Tu fais une ânerie terrible. Annule ton rendez-vous. Dis que tu rentres mardi. Il y a Bruce qui est là, à Paris. Bruce Anderson, le fameux.
Fondateur de BCG.
Voilà. Bon. Alors, pour qu'un Fontanet, qui avait promis d'arriver lundi, fasse un petit mensonge, en disant, écoutez, j'ai un problème, je peux être que mardi, je peux vous dire, c'est effrayant. Bon, toujours est-il que je l'ai fait par amitié pour mon copain François. Bon, j'arrive au BCG, donc la pièce était grande comme celle-là. Il y avait 2-3 personnes, des jeunes. Le père Bruce qui était là, majestueux. Bruce est arrivé sapé, il devait rencontrer Ambroise Roux. Alors ça vous dit rien, Ambroise Roux, vous êtes trop jeune. Ambroise Roux, c'était le patron emblématique des années 75, c'était le patron de la CGE, plus grosse boîte française de l'époque. Bon. Et patron du patronat, tout ça. Une demi-heure avant le rendez-vous, Ambroise Roux annule. On me dit, pas de problème, Xavier, tu déjeunes avec Bruce. Donc le petit Fontanet, devant Bruce Anderson, qui était un personnage majestueux, ancien président de Westinghouse, vous voyez, niveau Jack Welch, qui déjeune avec moi. Bon. Alors, on commence à discuter, on va dans un bistrot. Il avait son costume, il commande une soupe. On discute. Moi, j'étais du MIT, j'étais adepte à l'époque de la théorie du prix offre-demande. Lui explique la courbe d'expérience. On commence pas à se fâcher, mais la discussion est vive. Et Bruce, d'un geste, renverse sa soupe sur son pantalon. Le beau costard qu'il avait mis. Alors, je lui écoute, monsieur le président, surtout. Et alors, il jette son truc. Il fait un geste comme ça, il commence à discuter. Je lui dis, écoutez, monsieur Anderson, je rentre chez BCG.
Pourquoi cette que histoire ce est géniale.
On regarde la vie. Donc, coup de téléphone d'un copain, alors que je partais dans un sens, vous vous rendez compte? Il appelle et annulation du rendez-vous. Je rencontre le truc, vous vous rendez compte? Bon, je suis rentré chez Sylor, c'est pareil. J'avais donné madame au wagon-lit sur une décision. J'avais dit, écoutez, alors j'étais co-manager. J'ai dit à toute la présidence, si vous prenez cette décision, le père Fontanet, il se tire parce qu'il pourra pas. La décision, c'est de nommer quelqu'un à un poste à clé. J'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, il ne pourrait pas fonctionner, je pars. Vous vous rendez compte? En plus, les 3 enfants, la femme. J'ai dit, Fontanet ne peut pas travailler comme ça, sachez que ça. Bon, la décision n'était pas prise, mais le patron savait que je me tirais. Vous vous rendez compte? Je prends l'avion le lendemain pour discuter des restaurants Nestlé. Je tombe à côté de Cotet, qui venait d'être nommé PDG, qui cherchait un gars de l'extérieur. Qui me dit, Xavier, tiens, vous voulez pas rentrer chez Sylor? Ah, je lui dis, Gérard, ça tombe bien, j'ai plus de job. La vie, franchement, toutes les rencontres, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, pour moi, c'est pas est-ce que vous feriez différemment, c'est à quel point le hasard a joué.
Mais il faut savoir saisir sa chance.
Alors, il faut saisir la chance. Ah oui, votre cas s'améliore. Hein, bon. Il faut savoir saisir la chance, évidemment. Et c'est là qu'il faut être capable de bouger très vite. Et alors c'est là où il y a évidemment des gens qui sont plus conservateurs. Et je crois que c'est peut-être là qu'il y a les différences des gens qui sont capables de... La rencontre avec Madame Roux, c'est pareil, sur Beneteau. Donc tous les... Je veux dire, les trucs les plus fondamentaux, ça a toujours été des rencontres de personnes improbables.
Et par comment, contre, vous n'aviez pas peur de faire de tels changements, de prendre des décisions qui pouvaient avoir un impact important sur votre vie quand
non,
même
non, non, non. Là, je vois dire que mon épouse est assez culottée. Pour ça, ça n'a jamais fait peur. Quand on a dit qu'on partait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, pas de problème. Voyez, donc, il y a eu une flexibilité énorme. Là, je vois dire que chapeau. Mais parce qu'après, moi, le truc, vous dites, on peut pas laisser. Quand j'ai vu le Beneteau, je vous raconterai pas l'histoire une autre fois, mais c'est une histoire encore de fou. Une sorte de fou. On n'a pas le temps, là. Je vous raconterai peut-être cette histoire. C'est parce que je pense que pour les jeunes générations, c'est peut-être le plus important. De dire que tout va dépendre de rencontres et qu'à un moment donné, il faut dire cette personne, il y a vraiment quelque chose de plus et allez, on y va.
J'ai envie de la suivre. Ah, j'ai envie d'y aller avec elle.
C'est toujours des personnes. Et ça, je pense que pour les jeunes, il faut pas avoir peur de l'avenir. Parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Donc, il n'y a pas les mêmes que celles qu'on a eues. Mais avec tout ce qui se passe sur le net, il y a tellement... Regardez, le gratin, c'est un exemple. Votre truc, ça peut peut-être aller loin. Hein, si vous prenez de bons conseils.
Si je prends la leçon numéro 1 demain...
Voilà, si vous commencez à prendre les cours en série...
La victoire est faite.
Vous allez probablement y arriver. Et tout est fait de... Et ça, il faut le dire, que le monde est plus ouvert que jamais. Et que par contre, il faut saisir. Alors, pour saisir l'opportunité, il faut quand même avoir une grande intériorité. Vous voyez, il y a tout un travail personnel qui vous permet de dire, attention, là, il y a un truc qui arrive. Là, c'est capital, ça.
Ça revient aussi à cette question de confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, on n'accepte pas de prendre ce risque.
On a peur, il ne faut pas avoir peur. Oui. Mais vous me dites ça, c'est la vie. On ne s'en est même pas rendu compte. Toutes les grandes décisions... Vous rendez compte, par exemple, je suis passé chez Beneteau, on a divisé le salaire par 3. Mais ça ne posait aucun problème. C'est que les impôts de l'année suivante étaient plus élevés que les revenus. Bon, mais on s'est même pas posé la question. Parce que je me dis, attendez, bon, je voulais pas être consultant toute ma vie, un tel train qui passe. En plus, Beneteau, c'est une petite boîte, hein. C'est pas une grosse boîte. C'est une petite. Mais on se disait, attendez, il y a un tel ressort dans tout ça que, puis les gens étaient tellement, on y va.
J'ai une question pour vous, Xavier. Vous aviez une stratégie de vie?
Non. Ça veut dire quoi, une stratégie de vie? Non, le seul truc, si vous voulez, non, la question se pose pas comme ça. J'ai pas du tout. Non. Non, ce que j'ai eu, si vous voulez, c'est que j'ai eu des parents exceptionnels, mais j'avais un père qui était quand même assez, on va dire, il était ministre général, donc c'était quand même quelqu'un très impressionnant, et il voulait absolument que je fasse des études scientifiques. Bon, moi, je voulais faire absolument HEC. J'ai compris après coup que lui voulait faire Polytechnique et que son père l'avait forcé à faire HEC. Donc, il était en train de me faire l'inverse. Bon. Bon, alors moi, j'ai dit, écoutez, j'étais bon citoyen, et donc je suis parti sur études d'ingénieur. Et donc, je suis rentré au Pont-de-Chaussée, et je lui ai dit, écoutez, papa, mission accomplie. Hein. C'est peut-être pas Polytechnique, mission accomplie. Maintenant, je fais ce que je veux. Et donc, à ce moment-là, là, j'ai pris, c'était pas une stratégie, je voulais aller aux US. Et donc là, avec Christine, on était donc mariés quand j'étais au Pont, on a dit, écoutez, on va aux US.
Et
là,
pourquoi vous vouliez aller aux US?
À cause de l'image des US, de le dynamisme des US. Ouais, c'était comme ça. Hein. Peut-être que j'avais lu Tocqueville aussi. Puis c'est parce que j'adorais déjà la philo. C'était voir les US. Puis j'avais beaucoup de copains qui m'ont dit, il faut y aller. Et puis j'étais à l'école des Ponts, où l'école des Ponts, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des tabacs aux US. Et donc je suis rentré. Donc là, c'est changé. Oui. Donc là, j'ai pris une décision. Hein. J'étais confronté à des... Puis après, les décisions, ça fait BCG, c'est BCG, il y a eu Beneteau, qui était une affaire BCG, vous voyez, tout. Après, non, une autre décision, quand on était à Saint-Gilles, on avait donc nos trois filles qu'on adore, et puis elles commençaient à arriver à 14 ans, plus d'école, et elles partent à Paris. Ah, ça va pas. Ma mère, qui était donc veuve à l'époque, avait refait son appartement et a dit aux filles, perdez pas votre temps à Saint-Gilles, venez habiter à Paris. Et donc mes deux aînés, j'ai dit à Madame Roux, je suis les filles. petit drame, ben, l'amour a compris. Et donc là, vous voyez les mouvements. Et là, j'ai dit, bon, Beneteau, 6 ans de Beneteau, je pense que pour la boîte, elle a quand même, elle avait monté de taille de façon inimaginable. Je dis, ben, non, écoutez, Xavier, mission accomplie. Alors, bon, donc il y a eu un petit passage, on a dû discuter. Et puis, voilà. Mais je suis parti, j'avais même pas de job. Mais j'ai trouvé le job tout de suite, wagon-lit, les cantines. Donc, non, la chance que j'ai eue, c'est que, si vous voulez, comme j'avais BCG avec moi, je prenais le téléphone, j'avais un job. C'était l'époque où ça tombait de tous les côtés. Et ça a peut-être changé un peu. Maintenant, encore que, moi, je vois les jeunes branchés.
Oui, ça dépend des secteurs, en fait.
Il y a ceux qui trouvent tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Donc, il faut bien choisir le secteur, quand même. Non, j'ai pas eu ces sujets, vous voyez. Non, la vie est formidable. C'est un peu le message que je veux faire passer. L'entreprise vous donne des... Alors, je vous expliquerai, parce que vous n'avez vu que la surface des choses. Hein, vous n'avez vu que la surface des choses.
Le vernis uniquement d'un verre ici.
Voilà, maintenant, je vous aide. Je vous ai ouvert une petite clé du château. Il faut quand même que vous rentriez un peu.
On va se revoir si vous l'acceptez, Xavier. Mais justement, j'aimerais terminer par votre mot de la fin, par le dernier message que vous vouliez nous faire passer. Et peut-être celui du livre, justement.
Ah ben, si vous voulez, moi, je reste dans la mission que je me suis donnée pendant ma retraite, si vous voulez. Je pense qu'il faut que les... Alors, la mission plus importante, c'est que, quand vous aurez fait toute l'histoire du livre, je pense que les Français sont assez dégourdis. Voilà. La chance, peut-être, la plus extraordinaire d'une conquête mondiale, c'est que vous apprenez à connaître des Japonais, des Allemands. Et si vous voulez, quand vous faites du business avec des Coréens pendant 15 ans, je veux dire, on se comprend. Alors, je connais peut-être pas l'histoire de la Corée, mais on a vécu ensemble des aventures extraordinaires, on a vécu des moments dangereux avec des Coréens. Bon, moi, je dis que le business, c'est la meilleure façon de connaître les peuples. Il n'y a pas photo. Bon, et donc, les entreprises vous permettent ça. Donc, les entreprises, c'est les lieux par excellence où on développe les personnalités, et vous avez la dimension mondiale. Ça, c'est capital. Parce que si vous voyez, quand vous avez vraiment... Moi, j'ai par exemple mon ami Reuilly, qui est le patron des Sailor Chine. Bon, on continue à s'appeler quand même tous les dimanches. Hein. On passe tous les dimanches une demi-heure à discuter entre nous. Alors que ça fait 8 ans que je ne travaille plus. Tous les dimanches. Hein. Et donc, on a créé des liens avec des gens très différents. Donc, ça vous donne une profondeur humaine exceptionnelle. Et donc, je pense que les entreprises, c'est l'endroit, à mon avis, privilégié où développer les personnalités. Et donc, moi, je fais ça pour lutter contre toutes les idées, les exploiteurs, les manipulateurs. C'est un scandale. D'ailleurs, les gens qui disent tout ça, c'est des gens qui n'ont pas été en entreprise. Ils auraient eu la chance de monter des boîtes. Ils raconteraient pas tout ça. Donc, moi, je suis dans cette dynamique de dire que les boîtes, c'est quand même un truc magnifique. Et que les Français sont très dégourdis. On n'est pas fait comme les Allemands, on n'est pas fait comme les Américains, mais on a tous les talents pour se débrouiller. Hein. Voilà, pour faire des petits leaders mondiaux.
Il faut qu'on prenne confiance.
Plein de petits Français leaders mondiaux dans leur truc, voilà.
Eh bien, écoutez, bientôt, ça sera le cas peut-être sur le gratin, et aussi pour ma marque de joaillerie, grâce à vous, voilà. Et à tous ces cours de stratégie que je vais avidement aller écouter après cette interview. Voilà. Merci 1000 fois, Xavier, c'était passionnant. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legno, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.